Graffiti. 19, 20 heures.
Tu vas au boulot, tu marches seul.
Histoire de femme.
À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule. Eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur l'antenne de Graffiti, votre radio préférée, votre radio locale, alternative, solidaire, culturelle et plurielle. Moi, c'est Audrey. Nous sommes le 4 février 2026 et vous êtes en direct sur les ondes. Nous sommes le 4 février et pourtant, je vais dire quelque chose qui va choquer plein de monde. Je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Oui, je sais, je suis en retard de 5 jours. Il y a 5 jours, j'aurais pu et là, ça n'est plus autorisé. Mais, pour rappel, l'émission de janvier n'a pas eu lieu. Nous avons essayé d'affronter la neige, le froid, le verglas, mais nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons dû renoncer et l'émission n'a pas eu lieu. Nous n'avons donc pas eu l'occasion de vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année. Donc je le fais avec 5 jours de retard et puis tant pis. Voilà, si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Je voulais aussi rappeler quand même que nous avons un site de dons. Non, pas un site de dons, enfin nous avons un site sur lequel vous pouvez faire des dons. Les dons, c'est important pour aider une radio locale associative. Chaque jour, nous, les bénévoles passionnés, sélectionnons pour vous des titres pour la playlist musicale, sélectionnons des invités pour nos émissions, des thématiques auxquelles nous travaillons. Vous voulez contribuer à vibrer ensemble avec la radio qui vous ressemble? Alors votre geste, c'est notre énergie. Je vous invite à soutenir Graffiti avec un don mensuel ou un don ponctuel. Et ça, c'est sur don.graffitiradio.fr. Je répète, don.graffitiradio.fr. Si vous voulez témoigner dans notre émission, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une page Facebook, Histoire de Femmes, un compte Instagram, Histoire de Femmes aussi, et bien sûr par l'intermédiaire de la radio. Chaque mois, nous recevons un ou une invitée. Il faut admettre que c'est en général une invitée. Non pas que nous ne voulions pas inviter d'hommes, c'est qu'ils ne se bousculent pas à la porte pour témoigner. Messieurs, vous voulez témoigner, vous êtes les bienvenus. Une condition, vous venez pour parler de femmes. L'émission s'appelle quand même Histoire de femmes. Hein. Alors ce soir, c'est une invitée que nous recevons. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Je vais vous en dire quelques mots. Notre invitée exerce un métier pas comme les autres. Elle écoute les voix, les cuisines, écrit avec la précision d'un bécherel et l'émotion des histoires vraies. Elle est tombée dedans comme sa grand-mère avec son col du fémur. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vais lui donner la parole dans quelques minutes. En fin d'émission, nous accueillerons une militante du collectif Nous Toutes 87. 85, j'ai dit 87, je ne sais même pas où c'est, 87, nous toutes 85 évidemment, pour une lecture d'extraits d'ouvrages féministes. Il y aura plusieurs pauses musicales et des pauses d'actualité. Avec moi dans le studio, il y a Alex. Alexandra, bonsoir. Hein.
Bonsoir Audrey, bonsoir à tous.
Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir?
Eh bien ce soir, j'ai préparé une playlist composée de jeunes artistes féministes engagés et en colère.
Une liste d'artistes françaises,
oui,
plutôt français. Que du français.
Que du français.
Ah bah très bien, très bien. Et donc d'habitude, eh bien, Alex et moi, nous sommes avec Annie. Annie, si tu nous écoutes, Annie, notre chroniqueuse, qui est malade, donc qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Annie, si tu nous écoutes, on te fait des gros bisous.
Oui, on pense très fort à toi.
Et on pense, voilà, c'est ça. Et donc, ah oui, évidemment, j'explique aux téléspectateurs. Décidément, moi, ça va pas du tout.
Ben oui.
À nos auditeurs et à nos auditrices, que si Annie n'est pas là, il n'y a pas les chroniques d'Annie. Parce que, enfin, moi, je sais pas. Alex, tu veux faire les chroniques d'Annie?
Non, j'ai pas de niveau.
Moi non plus, c'est pareil. Ouais. Donc, on fera tout de même quelques points, des mini-chroniques sur l'actualité. Mais ce sera pas les chroniques habituelles d'Annie qu'il faudra retrouver, attendre de retrouver le mois prochain. Le premier mercredi de chaque mois, de 19h à 20h30. Je vais peut-être tout de suite donner la parole à notre invité. Qu'en penses-tu, Alex?
Très bonne idée.
Alors, Delphine, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre émission. Notre invité... Non, j'y arriverai pas. Écoute, Delphine, je suis désolée.
Hein. Bah, c'est pas grave.
C'est pas le bonjour.
Merci de m'avoir invité.
Allez, on arrête, au revoir. qu'est-ce que tu penses des quelques mots que j'ai dit à ton sujet en introduction, parce que je ne suis pas sûre que pour les gens qui nous écoutent, ce soit très clair.
Alors, forcément, c'est difficile de... Moi, j'ai compris, forcément. C'est
mon métier. Est-ce que tu te retrouves dans ces mots-là ?
Oui, je me retrouve complètement. Et c'est très juste. Tu as réussi à trouver exactement le point de départ.
Le Becherel, c'est ton livre de chevet ?
Presque, ouais. J'ai jamais vraiment réussi à comprendre comment le Becherel était fichu à l'intérieur. Mais grosso modo, je me replonge dedans de temps en temps. Je les ai.
Ouais, d'accord. Il t'en a toute une série.
La grammaire, la conjugaison.
Ah oui, d'accord.
Non, mais j'ai la grammaire, j'ai la conjugaison et j'ai le bled pour l'orthographe.
Oui, ok. Donc l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, c'est extrêmement important dans ton métier. Et donc, tu fais quoi dans la vie ?
Eh bien, je suis biographe et écrivain professionnel. Donc, je transforme des histoires des histoires de vie, finalement, en livres. Et mon métier, c'est de ressortir toutes les émotions des gens et de transformer les oralités en phrases, parce que les mots sont magiques quand on sait bien les utiliser.
Tu es tombée dedans, donc j'ai dit, elle est tombée dedans comme sa grand-mère avec son col du fémur. Je crois qu'il faut expliquer à nos auditeurs et nos auditrices.
Bon. Alors, il s'agissait de ma grand-mère maternelle qui est décédée à 100 ans et un jour. Elle avait toujours promis qu'elle attendrait ses 100 ans. Elle a attendu ses 100 ans. Elle s'est endormie tranquillement après la sieste le lendemain. C'était parfait.
Bah oui.
Et en fait, j'ai toujours été très très proche d'elle. Et... quand j'étais petite, à chaque fois que j'allais en vacances, elle me racontait des histoires de son enfance et j'avais vraiment du mal à imaginer que cette vieille dame avec ses cheveux blancs était capable de grimper dans les arbres et de dénicher les oiseaux. Et lorsqu'elle est tombée, elle avait 96 ans, elle était encore chez elle, elle est tombée dans la nuit et elle est restée sur le carrelage. Donc en fait, en plus du col du fémur qui était fracturé, elle a eu droit à une pneumonie parce que forcément il faisait froid, c'était l'hiver. Heureusement que la voisine passait tous les matins. Et j'ai ressenti l'urgence d'écrire son histoire. J'étais pas installée. On était en 2010. J'étais pas installée à ce moment-là parce que ça a été mon déclencheur.
Concrètement, elle t'avait déjà confié beaucoup de choses ou t'es allée chercher d'autres informations? Comment tu as procédé?
Elle m'avait confié plein de choses à l'oral, mais moi, l'oral, on me dit quelque chose. Si je le note pas, ma mémoire, elle est plus visuelle qu'auditive, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc, elle était toujours là. J'ai pris mon stylo, enregistreur, et puis je me suis dit, allez, on y va. Et j'ai posé des questions à mes tantes, à ma mère, à ma grand-mère, qui était absolument ravie de toutes ces questions. Et j'ai commencé à rédiger un livre qui ne ressemble à rien, parce que c'était mon premier, que je ne savais pas faire, qu'il est ultra mal mis en page. Mais ce n'est pas grave, parce que quand j'ai vu le plaisir que ma famille a eu à le lire, je me suis dit, il y a un truc. Et puis derrière, mes études de commerce ont pris le dessus, j'ai fait une étude de marché, et puis voilà.
Parce qu'à l'époque, tu étais étudiante encore?
Non, alors, pas du tout.
Non, j'étais, tu travaillais en fait, derrière.
J'étais entre deux, parce que j'avais eu un accident de travail sur mon dernier poste salarié, j'étais en tentative de reconversion, et puis la reconversion, elle a été évidente.
D'accord.
Donc voilà, formation. Alors j'ai toujours été très à l'aise en français, ça...
J'imagine, ça, oui.
Mais voilà.
Et donc, parce que mon biographe, j'imagine que on sait ce qu'il y a derrière. Hein, on ne sait sûrement pas la façon dont tu travailles, dont tu procèdes, mais en tout cas, on sait ce à quoi ça correspond. De façon plus large, écrivaine publique, je crois que ça ne parle pas beaucoup. Tout le monde sait ce que c'est qu'un écrivain, une écrivaine. Mais écrivaine publique, je ne suis pas sûre que ça parle à beaucoup de gens. En dehors des biographies, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Alors, est-ce que tu fais d'autres choses déjà ?
Alors oui, je fais d'autres choses. Mon but, c'est la transmission. C'est vraiment le cœur de mon métier et je le fais de différentes manières. Donc la transmission, ça va être la transmission de compétences lorsque j'aide les personnes à mettre finalement leurs compétences dans un CV ou dans une lettre de motivation, même si c'est pas ce que je fais le plus parce que je suis face à des bénévoles parfois dans certaines associations qui prennent le relais et mes tarifs ont un coût et forcément
bien sûr.
Je vais pas lutter. J'ai travaillé la semaine dernière sur un dossier dans une procédure juridique qui est un peu compliquée, donc j'étais là pour aider la personne à rédiger des observations à la suite d'une expertise. Je vais travailler sur des dossiers d'accompagnement pour des demandes de formation. J'ai fait des dossiers de validation des acquis de l'expérience. Alors attention, je ne rédige pas à la place. Je retravaille avec l'auteur, qui n'est pas moi, les écrits qui me sont proposés. En aucun cas, je fais à la place des gens. Je travaille beaucoup sur de la correction orthographique, syntaxique, sur de la mise en page. Je vais faire les histoires de vie des particuliers, mais aussi des entreprises, parce qu'une entreprise a une vie et ça vaut le coup de l'écrire. Et puis, comme j'adore travailler, je donne aussi des cours de français culture générale à des BTS.
Ça ne suffisait pas, en fait.
Non, ça ne suffisait pas. Et puis, histoire géo, français, EMC, avec des CAP depuis le début de l'année. Et là, c'est plus galère, parce que le français, ça va, mais le reste, j'apprends en même temps que...
Alors, quand tu as commencé, donc ta reconversion, là, ça s'est imposé, tu l'as dit.
Ouais.
Tu as commencé d'abord avec... T'as été sur tous les terrains en même temps, la biographie, les CV, les machins, tu t'y es pris comment?
Alors d'abord écrivain public et biographe uniquement, et puis petit à petit je me suis rendu compte que écrivain public c'était pas suffisant du fait de cette concurrence avec les associations, ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Après, ma clientèle, elle sait quand elle vient me voir qu'elle attend quelque chose de bien spécifique et je lui fournis ce qu'elle attend. Mais en plus, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui fait ça plutôt pas mal.
Oui,
je ne vais pas me battre face à un ordinateur, ça ne sert à rien. En revanche, je vais être là pour mettre l'humain, mettre l'émotion, des choses qu'une IA ne fera jamais.
C'est intéressant là, ce que tu dis, parce que l'IA, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet de société. Et il y a des gens, effectivement, qui alertent sur les réseaux. En disant que certains métiers vont disparaître et les termes d'écrivain public, ou tous les gens qui écrivent en tout cas, ce sont des choses qui reviennent. On parle des traducteurs, on parle même, ça va très loin, maintenant on peut faire soi-même sa propre chanson, elle est écrite par l'IA, elle est mise en musique par l'IA, même la voix, ce n'est pas nous. Bon là on change de registre, mais toi, tu n'as pas l'air d'être inquiète.
Non, je ne suis pas inquiète parce que... Alors... Les personnes qui n'ont pas de budget, je leur dis, vous donnez votre brouillon à l'IA et elle vous le fera. Ceux qui ont un budget, c'est que ces personnes-là savent ce qu'elles attendent et savent que l'IA va pas suffire. Il y a des choses que l'IA, en fait, l'intelligence artificielle va traiter le texte de manière super automatique avec un vocabulaire qui est très identifiable et c'est très facile à lire quand on a l'habitude. C'est très facile à lire et à voir la différence entre ce qu'un humain peut faire et ce qu'une intelligence artificielle va faire.
Mais quelqu'un qui a besoin d'une simple correction orthographique grammaticale, l'IA, ça marche.
Oui. Attention quand même à l'endroit où on le met, parce que le souci c'est que il faut être super précis dans le prompt qu'on fait à l'intelligence artificielle. Absolument. Pour qu'elle nous fasse bien la bonne correction, parce que j'ai eu des jeunes, parce que ils sont très friands de ça, moins ils travaillent,
oui, mais
plus
ils savent pas faire un prompt. Enfin, nombre d'entre eux, d'entre elles, ne savent pas.
Donc
faire de prompt.
Ils me disent, on le prend que pour la correction orthographique, mais derrière l'IA modifie les mots. Et derrière, si je les interroge sur le sens du mot, ils savent pas.
Oui.
C'est quand même dommage. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que elle stocke toutes les données. Et dans le cas de mon métier, on dépend du RGPD, les fameuses quatre lettres horribles qui sont la protection des données personnelles.
Oui.
Donc, on ne peut pas, en aucun cas, lorsqu'on travaille l'histoire de quelqu'un, mettre ces données-là sur une IA, dans une IA, sur Internet.
Bien sûr.
Hyper dangereux.
Bien sûr.
C'est totalement pas conforme à...
Donc toi, tu n'es pas inquiète pour toi ou pour les gens qui exercent le même métier que toi, même à moyen long terme?
Non.
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 Ok.
Non, puis alors, j'ai pas le contrôle là-dessus.
Bien
Donc,
sûr.
Donc, L'IA, je m'en sers pour les cours, par exemple, le montage des cours. Ça me sert à créer des séquences de cours et à trouver des exercices. En revanche, je reprends toujours tout ce qu'elle me dit.
Oui, tu utilises l'IA de façon intelligente, comme
mais c'est un outil de travail, sauf les comme un correcteur orthographique, un logiciel de traitement de texte. C'est un outil.
Donc, bien sûr.
Ça existe, faut pas le bouder, faut pas en avoir peur, non, faut juste apprendre à l'utiliser.
C'est très utile, c'est très bien, mais voilà. On est bien d'accord. Ok. Donc tu disais quand tu t'es lancée.
Donc quand je me suis lancée, j'étais uniquement écrivain public et biographe. Très vite, la biographie a pris le pas sur le reste. Donc je me suis consacrée à ça parce que la première année, j'ai dû en faire huit la première année. J'en avais prévu 5.
7, 8 quoi, biographie.
Biographie.
Alors, j'imagine que c'est pas toujours le même temps de travail, parce que ça dépend de ce que la personne a à dire, ça dépend de sa vie, ça dépend de.
Oui, mais
ça dépend de beaucoup de choses.
Il faut compter 10 heures d'enregistrement pour une biographie, c'est-à-dire à peu près entre 70 et 80 heures de travail.
D'accord.
Pour une. Et donc, à ce moment-là, je faisais un rendez-vous d'une heure tous les 15 jours. Bon, maintenant, je suis passée à un rendez-vous d'une heure tous les mois parce qu'en fait, ça fatigue beaucoup les témoins. Et comme je travaille avec des personnes qui souvent sont âgées, donc 80 ans et plus, le but du jeu, c'est qu'ils puissent profiter du livre à la fin. C'est pas de les fatiguer avant que ça se termine.
Okay.
Et donc là, je vais avoir 15
donc,
ans.
10, je t'arrête, 10 heures, ça fait 10 mois, quoi.
10 heures, 10 mois, oui.
D'accord.
C'est okay. Ça.
Donc, il faut compter un an de travail.
Ah, c'est ça.
D'accord,
c'est ça. Okay. Je prends un peu de vacances quand même, pas beaucoup.
Mais en fait, je voulais dire, en plus, je pensais pas à toi, je pensais plutôt à tes clients.
Non,
eux, il faut qu'ils se disent qu'il va y avoir un an d'échange avant d'obtenir ce pourquoi elles sont venues te voir.
C'est ça, mais c'est aussi parce que ça permet, en fait, on construit le livre au fur et à mesure des séances. Lorsque je discute avec quelqu'un, pendant une heure, j'enregistre donc ses confidences, je regarde, je prends des notes en même temps, et je me concentre sur son visage, ce qui me permet de voir passer les émotions. Et je vais aller tirer les fils à ce moment-là. Et lorsque je réécoute pour réécrire, donc je fais ça dans les 15 jours à 3 semaines plus tard, je réécris et ensuite j'envoie les textes avant le rendez-vous suivant. Eh bien, ça permet à la personne finalement d'avoir eu le temps de reposer le cerveau et puis de réactiver la mémoire pour le rendez-vous d'après. On corrige, on complète et ça se co-construit. En fait, les pages, ils les ont au fur et à mesure.
Mais alors, moi dans ma tête, j'ai les romans. Alors finalement, c'est pas la même chose. Mais
non.
Donc tu ne sais pas quand tu construis. Tu ne sais pas du tout où ça va te mener. En fait, tu ne connais pas il n'y a pas forcément d'issue, mais enfin, tu vois ce que je veux dire.
Alors, je le sais plus ou moins parce qu'il y a une ligne directrice qui a été établie lors du tout premier entretien, qui est un entretien offert, ce qu'on appelle un entretien préalable, qui va permettre de déterminer les sujets principaux, les axes, parce que c'est un entretien comme il est non officiel. Même si j'enregistre quand même, parce que ça me permet de garder des traces, comme il est non officiel, eh bien, les gens sont très, très libres de raconter tout ce qu'ils veulent. Et souvent, ils racontent beaucoup. Et puis, le premier entretien, je ne sais pas trop par quoi commencer. Voilà ce que j'entends souvent. Mmh. Et là, je reviens sur ce qu'ils m'ont dit. Donc, ce premier entretien qui est un entretien découverte, parce que c'est bien que les gens aient envie d'écrire leur histoire, mais peut-être que je ne suis pas la bonne personne. Donc, cet entretien-là, il sert aussi à vérifier que le feeling passe dans les deux sens. Eh bien, moi, j'utilise donc la matière qu'ils me fournissent à ce moment-là pour démarrer quand on démarre. Et puis alors, ça se fait tout seul.
Quand tu dis que tu n'es pas forcément la bonne personne, ça t'est arrivé de dire « ce ne sera pas moi qui écrirai votre histoire »
Oui, deux fois.
D'accord.
Alors, deux fois, mais pas pour ces raisons-là, c'est parce que les personnes n'étaient pas prêtes. Il y avait trop de douleur dans ce qu'elles voulaient raconter. J'ai préféré dire non.
Alors, en t'entendant, tu parles d'être prêt, d'être prête, de tirer les émotions, tu observes les gens, il faut qu'il y ait la confiance des deux côtés. J'ai l'impression que tu es psychologue.
C'est le genre de choses
qu'on pourrait dire.
Ils s'auto-psychanalysent s'ils veulent.
Non, mais je veux dire, il y a une relation comme ça qui est assez étonnante. Parce que c'est ce qu'on dirait. Tu vas voir un psy, il faut que le courant passe. Il faut que dans les deux sens, le courant passe. Quand tu dis la première séance après, je ne sais pas par quoi commencer ou je ne sais pas quoi dire.
C'est ça.
C'est exactement ce qu'on entend sur les consultations, non?
Très certainement. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. je me souviens pas comment j'étais sur les premières consultations de psy quand j'en ai faites. Parce que j'en ai faites, évidemment. Mais le truc, c'est que je travaille de la matière humaine, je travaille des émotions, je travaille l'intimité des gens. Et ils peuvent enfin, moi, je ne conçois pas qu'ils puissent livrer leur, mais c'est peut-être mon point de vue, mais qui puissent livrer leurs émotions à quelqu'un qu'ils ne sentent pas. C'est peut-être idiot, mais pour faire un bon boulot, il faut que le courant passe dans les deux sens. Et les émotions, pour moi, sont essentielles parce que je ne peux pas écrire s'il n'y a pas d'émotion.
Et t'as pas des émotions parfois qui sont un peu violentes, en tout cas pour toi, parce qu'il y a des histoires, j'imagine, qui doivent être peut-être douloureuses.
Elles le sont toutes.
Elles le sont toutes.
Ouais. Malheureusement, elles le sont toutes.
C'est
là qu'on voit que la vie, elle nous écorche tous. Ouais. J'ai appris à me protéger. La première année, j'ai été complètement envahie par les émotions de mes clients et j'étais accompagnée par une thérapeute à ce moment-là qui m'a aidée à visualiser des techniques pour que je me protège. Et la technique de la bulle, elle est géniale.
Alors, c'est quoi la technique de la bulle?
En fait, on se visualise à l'intérieur d'une bulle. Vous savez, comme les bulles qu'on a sur les lacs,
oui.
Où on est à l'intérieur.
Oui.
Donc, on sent les choses, mais il n'y a rien qui pénètre. Ce qui fait qu'en fait, je ressens les émotions, mais je ne les absorbe pas.
D'accord.
Et c'est suffisant. Alors, ça demande un peu d'entraînement, mais c'est suffisant pour qu'aujourd'hui, j'arrive à ressortir des histoires qui correspondent.
Ça m'intéresse. Hein. Je veux bien avoir une bulle, moi. Je veux bien... on en reparle. Hein. On en reparle,
avec
ça
plaisir.
Pourrait être utile. Et donc tes premiers pas, tu disais...
Mes premiers
donc...
pas, écrivain public, biographe.
Alors, ça s'est passé en combien de temps, sur quelle période, en gros, dans les grandes lignes?
Je dirais les trois premières années, écrivain public, j'avais ce gros avantage d'avoir un contrat avec le SPIP, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, je crois, ça doit être ça, à la maison d'arrêt à La Roche.
D'accord.
J'intervenais à la maison d'arrêt au tout départ pour aider les détenus qui étaient là et coupés de leur famille à rédiger des courriers pour leur famille. Et
des gens qui ne savaient pas lire et écrire ou bien qui n'arrivaient pas à les mettre en forme, enfin.
Alors, y avait un peu les deux.
D'accord.
Et surtout, c'était extrêmement intéressant humainement parce que j'avais un vrai rôle. C'était très utile parce qu'à chaque fois que je revenais, ils me disaient, parce que je venais une fois tous les 15 jours, à chaque fois que je venais, ils me disaient, mais j'ai eu un courrier de mon fils ou de ma fille ou de ma femme, enfin, peu importe, mais ils étaient contents.
Et en fait, l'écrivain public, historiquement, c'est effectivement quelqu'un qui met à disposition sa plume pour des gens qui ne savent pas lire et écrire, ou pas assez bien.
C'est ça.
Et qu'effectivement, il est dans la rue ou dans son échoppe, et puis on vient lui donner une pièce. Enfin, on voit ça dans les films, hein, je veux dire.
Non, mais c'est ça.
C'est la vérité. Donc, et ça existe toujours, contrairement à ce que les gens pourraient penser, évidemment.
Oui.
C'est pas la même chose, on n'est pas dans la même société, tu nous le dis depuis tout à l'heure, mais ça existe toujours. Il y a toujours un besoin, en fait.
Oui, et alors c'est étonnant parce qu'à la fin du XXe siècle, il devait rester 80 écrivains publics en France. Mais vraiment, quasiment plus. Et aujourd'hui, on doit être entre 1500 et 2000. Je suis en train de travailler sur un livre qui est s'installer comme écrivain public, hein, grosso modo, c'est l'idée. Pouvoir expliquer, donner des conseils, donner des chiffres aussi, avec des statistiques, des choses comme ça. J'ai fait un gros travail de recherche par rapport à ça. Et le but, c'est de faciliter l'installation des nouveaux entrants pour qu'ils ne démontent pas le marché. Parce que
oui.
Ça, c'est mon côté chef d'entreprise.
Alors justement, une vie chef d'entreprise, au niveau statut juridique.
Entreprise individuelle.
Donc tu peux peut-être expliquer à l'antenne en quelques mots, rapidement.
Alors là, ça devient plus compliqué.
Ce que c'est, et en tout cas... Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, tu es toute seule, tu travailles, tu t'organises comme tu veux, les gens doivent penser auto-entrepreneuse, alors que ça n'a rien à voir.
Alors, j'ai commencé en auto-entreprise, mais il faut bien comprendre, l'auto-entreprise, c'est un statut intermédiaire qui permet de tester une activité avant de prendre son envol et de passer au-delà. Je suis restée 2 ans et demi en auto-entreprise, et au bout de 2 ans et demi, je me suis rendu compte que le ratio des charges réelles payées que je pouvais pas déduire parce que j'étais en auto-entreprise, était supérieur finalement à ce que j'aurais pu déduire.
Oui.
Donc ça veut dire que en tant qu'auto-entrepreneur, je payais des impôts sur un revenu que je ne touchais pas.
Oui.
En passant en entreprise individuelle, l'inconvénient c'est que j'étais assujettie à la TVA.
Et oui.
Donc j'ai pris 20% d'augmentation sur tous mes tarifs que j'ai lissé sur 3 ans. Mais c'est violent quand même. Hein. Mais aujourd'hui, je vis correctement de mon métier. C'est un vrai métier.
Donc ça fait combien de temps là, l'entreprise individuelle ?
Eh ben, c'est l'entreprise individuelle en elle-même, ça va faire 13 ans.
D'accord, plus 2 ans et demi avant où c'est tu étais auto-entrepreneuse. Ouais. Je suis en train de me demander quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois pour savoir où t'en étais. Je sais que je me demande si t'étais pas auto-entrepreneuse à l'époque.
Oui, c'est possible, je me suis installée en 2011. Donc
ça faisait pas longtemps et auto-entrepreneuse en 2011 ou... Oui, on a dû se rencontrer après. Peut-être que tu venais de passer... Enfin, bref, excusez-nous, chers auditeurs et auditrices, pour ce combat, cet échange de vieilles combattantes, de vieilles... Excuse-moi, je dis ça, Delphine, t'es quand même beaucoup plus jeune que moi. Les gens ne savent pas, en fait, à l'antenne. Donc, Delphine a 70 ans. Et je comprends pourquoi c'est drôle. C'est quoi cet agisme?
Non, mais moi, je trouve ça génial parce qu'à 80 balais, je me vois bien avec mon déambulateur, les dents qui claquent, en train de récupérer les souvenirs de mes clients.
Mais bien sûr.
Je ne me vois pas arrêter, en fait.
Bah, écoute, bien entendu. Oui, tu voulais dire, Alex. Tu voulais te moquer. Tu vas te moquer de moi.
Je dis non, ça va. Mais on n'a pas de l'image là dans le studio. Donc,
ben non, c'est pour ça, c'est pratique. Je peux dire ce que je veux. Voilà. Bon, évidemment, enfin pas évidemment d'ailleurs, Delphine pourrait très bien avoir 70 ans, mais ça n'est pas du tout le cas. Est-ce que tu veux bien nous dire quel âge tu as, Delphine ?
J'ai 50 ans.
Tu as 50 ans.
Je vais sur les 51 cet été.
D'accord.
1975, c'est précis.
Voilà, 1975. Alors, c'est quoi comme. Est-ce qu'il y a un truc important cette année-là qui vient à l'esprit de.
Aucune idée. Quelqu'un? Ma naissance, c'était bien voilà. Ça.
Exactement, mais c'est ça en fait. C'est ça, voilà. Donc, une expérience. Tu ne retournerais pas en arrière, j'imagine.
Non.
Il suffit de voir comment tu es animée, là, parce que. Par mais ton de toute activité, façon. Là, ce que tu nous dis, là.
Puis, je suis fondamentalement faite pour l'indépendance. J'aime gérer mon temps, j'aime... Enfin voilà, ce matin ma journée a commencé à 8h, ben, je vais finir... J'ai pas eu un temps mort du tout depuis ce matin. Ça va faire 8h, 21h et puis...
Tu te déplaces chez tes clients, oui. D'accord ? Quel que soit le type de client, tu te déplaces toujours. Tu ne reçois jamais de clients chez toi ? Tu as un bureau, tu as un endroit pour
alors,
les...
J'ai un bureau au Clouzot. Alors, le siège administratif est au Clouzot et le siège social est à La Roche. Mais j'ai un bureau. Pourquoi ? Ben parce que en fait, j'ai pas changé le siège social lorsque j'ai acheté la maison au Clouzot pour mettre le bureau. C'était plus simple et puis ça permet d'avoir une dissociation.
Oui, c'est plutôt pas mal. Oui, effectivement, ouais. Oui.
Et puis c'est en fait mon siège social est dans l'espace de coworking qui est un tout petit peu plus bas sur la route là, sur la route des Sables. Et j'ai un bureau. Je d'ailleurs petite précision à tout le monde, si vous cherchez des bureaux à louer à l'heure ou pas, là-bas faut y aller. C'est super sympa. Il y a toujours le café et puis la gérante elle est géniale.
Alors tu peux nous donner l'adresse si tu veux. Hein,
c'est 42 route des Sables, d'accord. À La Roche.
Ok.
Et c'est Marie de Catelan qui le tient et elle est super.
Et je suis en train de réaliser que je ne crois pas qu'on ait donné le nom de ton entreprise.
Ah oui, c'est vrai.
On a donné ton prénom, mais l'entreprise ne s'appelle pas chez Delphine.
Non, elle s'appelle Démo pour des histoires. Voilà, c'est
exactement.
Vrai.
C'est vrai qu'on ne l'avait pas donné, donc vous pourrez retrouver, tu as une page Instagram, enfin un compte Instagram, Facebook.
Alors Facebook, LinkedIn, Instagram, c'est pas alimenté parce que je ne comprends rien, c'est mon apprenti qui l'avait géré quand il était là, il n'est plus là. Donc ça bouge pas. Je vais essayer, hein, promis, mais je manque un peu de temps. Et puis j'ai surtout le site internet.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc on peut retrouver facilement dans la barre de recherche en tapant des mots pour des histoires. Ce côté, alors tu as parlé d'espace de coworking, t'as été, parce que sinon tu es un peu seule, c'est agréable d'être à côté d'autres personnes quand tu vas au bureau, comment ça se passe ?
En fait c'est indispensable, de se sortir de la solitude du dirigeant indépendant. On a tous les mêmes problématiques, on a tous les mêmes difficultés, les mêmes questionnements sur le fonctionnement. Et puis, ben, quelquefois, simplement parler au café avec un autre dirigeant de ce que l'on vit, de nos questions ou autres, ben, ça aide à trouver des solutions. On est plus fort ensemble.
Donc ça, c'est vraiment important, quoi.
Oui.
Et dès le départ, tu t'es mis à échanger avec d'autres personnes ou il y a eu un moment d'isolement au départ, enfin...
Alors, tout départ, je m'étais installée dans une pièce de ma maison. J'étais toute seule.
Oui, comme je pense tous les auto-entrepreneurs.
Oui, très certainement. Voilà. En revanche, j'ai intégré tout de suite des réseaux professionnels.
D'accord.
Donc, j'étais au niveau du réseau de la BGE, de la boutique de gestion pour entreprendre. Donc, j'étais dans le réseau. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Madame de Catelan. Et puis après, ben, j'ai intégré différents réseaux. Et là, Je suis.
Tu les comptes plus, quoi.
Un, deux, oui, je dois en avoir 4 ou 5.
D'accord. Donc, il y a des échanges riches, réguliers, oui. Qui font qu'effectivement, tu n'es pas toute seule dans ton coin, la solitude du dirigeant ou de la dirigeante, en l'occurrence.
Ah oui, puis ça, j'en veux pas. J'en veux pas du tout, parce que finalement, c'est dommage. Et puis, avec la formation, maintenant, je travaille avec des collègues, même si je suis à la facturation, alors que les autres peuvent être vacataires ou titulaires, je les considère quand même comme des collègues, parce qu'on a un objectif commun, c'est que nos jeunes que l'on encadre puissent avoir leurs examens.
Mais alors, tu te disperses pas un peu trop, là ?
Non, mais...
C'est que t'aimes ça.
Multitâche.
C'est ça.
Le truc, c'est que je suis incapable de me concentrer si j'ai pas de boulot.
Ouais,
en fait, d'accord. J'ai tendance à procrastiner si j'ai pas un agenda plein.
Ok. Il n'y a jamais de phase de découragement ? Ou t'en as traversé, peut-être au début, ou pas du tout ?
Il y a eu des périodes où c'était plus difficile. C'est vrai que quand j'étais mariée, c'était pas simple, parce que c'était le début aussi de l'activité. Les résultats n'étaient pas suffisants pour dégager un revenu. Et effectivement, lorsqu'on a 2 enfants à charge, un mari, une maison, des charges, enfin normal, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas grave, j'ai pris un boulot à côté. C'est-à-dire que j'étais à temps plein sur l'entreprise et à mi-temps salariée dans une entreprise.
Pendant longtemps, ce
deux
mi-temps
ans.
Pendant 2 ans, d'accord.
Ouais, c'est fatigant.
La période nécessaire, fatigant mais nécessaire, c'est
voilà.
Ça.
Voilà, mais il faut ce qu'il faut.
Ouais. Alors normalement, à cette heure-ci, il y a une chronique. La chronique de notre formidable Annie, qui nous écoute. Alors, il n'y aura pas la chronique, mais par contre, moi, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé. Voilà. Moi, je voudrais d'abord parler d'une bonne nouvelle, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Une bonne nouvelle, c'est que depuis quelques jours, précisément le 28 janvier, être marié, ça ne veut pas dire, ça ne veut plus dire accepter automatiquement les relations sexuelles. Le mariage est devenu un espace de liberté et de consentement réciproque, inscrit dans le Code civil. Petit rappel, le Code civil, qu'on appelle aussi le Code Napoléon, a été promulgué en 1804, juste après la Révolution. Le but, c'était d'unifier le droit civil du pays, le droit des personnes, familles, biens, obligations. Et concernant le mariage, ce code prévoyait que les époux entretiennent une, je cite, « communauté de vie ». Il n'y a absolument pas, il n'est pas question d'obligation d'avoir des relations sexuelles. Pour autant, ces termes « communauté de vie » ont régulièrement été interprétés comme l'obligation d'avoir des rapports sexuels, notamment par les tribunaux. Donc si un conjoint, et soyons honnêtes, une conjointe, dans la plupart des cas, j'imagine peut-être tous, je ne sais pas, refusait, eh bien ce refus pouvait être considéré comme une faute aux yeux du tribunal, donc utilisé contre la personne pour un divorce. Cette situation, évidemment, portait atteinte à l'autonomie et à l'autonomie corporelle, pardon, à la vie privée. En 2025, il y a une Française a porté cette question devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le tribunal avait considéré qu'elle était en faute en refusant d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Et elle a invoqué l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a tranché en sa faveur. Ce qui signifie que le consentement, évidemment, ne peut jamais être présumé ni imposé, ça va de soi, même dans le mariage. Et cette décision a mis en évidence l'urgence de clarifier la loi. Donc, pour lever toute ambiguïté, la loi a été présentée devant l'Assemblée qui a voté à l'unanimité.
Ouais.
Le 28 janvier, quand même, ça, à l'unanimité.
Oui, mais c'est tout relatif parce qu'ils étaient même pas là. Ils étaient une centaine. Ça ne les intéressait pas trop, je pense, quand même.
C'est vrai. Bon, j'avais dit que j'annonçais une bonne nouvelle quand
Mais c'est une bonne nouvelle, hein, du moment que.
Au moins, ils ne sont pas mis de bâton dans les roues.
Bref, oui.
Voilà. Donc une loi, une loi historique, hein, qui précise justement que dans le Code civil, la communauté de vie n'implique pas l'obligation sexuelle. Et ça, c'est vraiment très important. Plus aucun époux, aucune épouse ne pourra être contraint légalement à avoir des rapports sexuels. Et le refus d'en avoir ne pourra pas être utilisé contre la personne qui demande le divorce ou comme raison pour demander le divorce. Ça n'est pas une faute. Voilà. Donc c'est la fin d'un, d'un long héritage.
Et oui, qu'on arrête d'interpréter cette ancienne loi en faveur.
C'est terminé, c'est terminé. On est dans un contexte où les violences sexuelles et conjugales sont encore et toujours une réalité. On peut donc considérer que cette décision, ce vote, c'est une avancée majeure, hein, comme pour un tournant en faveur de l'égalité entre les sexes, évidemment, vers un tournant, vers, mais on est toujours à ramer, ça va de soi. Et c'est triste. Et puisque j'ai mentionné le fait qu'il y a encore des violences sexuelles et sexistes, évidemment, hein, on n'en voit pas le bout, je voudrais faire un petit point sur les féminicides. Nous sommes, les derniers comptages que j'ai datent du 25 janvier, nous sommes le 4 février. Donc au 25 janvier, entre le 1er et le 25 janvier 2026, 5 féminicides. 5 féminicides comptabilisés. Dans quelques jours, on va peut-être se dire qu'en fait, il y en a eu un autre le 15 janvier ou un autre le 18, mais le temps que ce soit identifié comme féminicide, il peut y avoir un délai. Donc on est à 5 féminicides depuis le début de l'année. Comme nous n'avons pas fait l'émission de janvier, on n'a pas donné le bilan sur l'année 2025, que je vais vous donner maintenant. Au 31 décembre 2025, selon nous toutes, il y a eu en France 164 féminicides. À titre de comparaison, en 2024, c'était 141. Je parle toujours de la source nous toutes. En 2023, 136, en 2022, 147, en 2021, 113. Et là, je viens de dire 164. Je crois qu'il n'y a pas besoin de dessin pour voir qu'on ne va vraiment pas du tout dans le bon sens. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'on en parle davantage, qu'on identifie peut-être aussi davantage le féminicide. Alors je ne vais pas comparer à il y a 10 ans. Parce que la façon de compter n'était pas la même. On en a déjà parlé dans l'émission. Je vous rappelle que je fais référence au décompte Nous Toutes et Inter-Orga Féminicide, qui a une méthodologie différente du décompte officiel du gouvernement. Parce que là, les associations, elles élargissent les féminicides au-delà du cadre conjugal, alors que le ministère de la Justice, lui, s'en tient au meurtre d'une femme par conjoint ou ex-conjoint. Donc par exemple, aux yeux du ministère de la Justice, un matricide, c'est-à-dire un enfant, un fils qui tue sa mère parce que c'est une femme, ça n'est pas comptabilisé, ça n'est pas considéré comme un féminicide. C'est pour ça que là, je ne vous cite que les chiffres de Nous Toutes. Et si on s'en tient aux chiffres de Nous Toutes, il y a une augmentation extrêmement importante en fait, en quelques années. Et pourtant, quand j'annonce le chiffre de 2021, c'est le Covid. On parle des violences qui augmentent. Et pourtant, c'est moins important que l'année 2025. Il y a quelque chose qui... Enfin bon, c'est dramatique. Comment on explique ça? On l'explique pas. Comment on peut lutter contre? Bon, y a différentes choses qui sont faites et mises en place par le gouvernement, par des associations, par le fait qu'on en parle, bien sûr. Mais enfin, on n'en voit pas le bout. Donc 164, pardon, pour 2025. On est à 5 pour le mois de janvier. Ça ne sera pas 5 par mois. Ça sera beaucoup plus, malheureusement. C'est juste... c'est comptable. Voilà, c'est terrible. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être faire le lien. On va peut-être faire une pause musicale, parce qu'on n'arrête pas de parler. Puis en fait, oui. Ma pauvre, t'as préparé une liste, on l'écoute pas.
On peut passer le morceau choisi par l'invité. Ah,
très bien, très bien.
Donc c'est une reprise de Rhythmix.
Allez.
Donc, Your Time Will Come, de Amy MacDonald.
Glowing eyes, the light begins to fade. I'm sick and tired of playing it up, sick of this parade. And your eyes are gently weeping as the sun begins to shine. The end is coming far too soon. I wish I had more time, so soon your time will come. Get out while you're still young. May all your dreams come true for someone like you. So soon your time will come. Get out while you're still young. May all your dreams come true. So happy for you. Begins to be. I left it all so far behind, my biggest mistake. And your smile is not like mine, it disappears from time to time. But I believe in you. Everything you'll ever do. Get out while you're still young. May all your dreams come true. So happy for you.
Pardon Alex.
C'est la magie du direct.
C'est, voilà, c'est ça. Très beau morceau, très bonne la version philharmonique.
Oui.
Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau, Delphine? Pourquoi est-ce que tu as eu envie? Quand je t'ai dit qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute pendant l'émission, le morceau choisi de l'invité
Bah alors, Amy MacDonald, c'était une évidence. Et puis, cette version-là, en philharmonique, je la trouve vibrante, réellement vibrante. Donc voilà, c'est...
C'est vrai, elle l'est. Donc c'est quoi, ça te donne la pêche, ça?
Ça me donne de l'espoir, ça me donne la pêche. Alors bon, je parle anglais très bien, ce qui fait que c'est facile à comprendre. Et l'histoire en elle-même, elle est magnifique. Donc c'est chouette.
Bon,
Non, je le dis, c'était pas la première fois. On a souvent des invités, pas toujours, mais on a souvent des invités qui sont extrêmement expressifs au niveau du visage, du sourire, des yeux. Et c'est vraiment regrettable que nos auditeurs et nos auditrices ne puissent pas te voir ce
soir. Toujours
parce que,
pas d'image.
Toujours pas d'image, je comprends pas. Il faudrait qu'on soit plus seulement une chaîne, enfin une radio.
Il faut faire des dons, beaucoup de dons.
Oui, c'est ça. Donc je rappelle. Voilà. don.graffitiradio.fr et c'est très sérieux pour soutenir votre radio, pour soutenir des émissions comme celle-ci et toutes les autres, pour soutenir, il y a des salariés aussi, enfin c'est vraiment extrêmement important, donc aidez-nous. Et effectivement, peut-être qu'un jour on aura un écran, on sera à la télé et Delphine, tu reviendras pour qu'on puisse partager tout ça. Je ne sais pas si vous l'entendez quand même, peut-être ça s'entend aussi dans la voix, j'imagine, que t'es bien, là, t'as l'air zen.
Moi je suis très bien.
T'as jamais passé à la radio avant?
Si, une fois.
Tu nous as trahi.
Une fois, mais alors, en 2011 ou début 2012, sur, je ne sais même plus comment elle s'appelle.
Oups. Je ne sais pas.
Bref, une radio concurrente qui est en centre-ville de La Roche.
Oui, mais on ne veut pas le dire si elle est concurrente.
Non.
Donc, tu avais déjà une expérience, tu avais été interviewée dans le cadre de ton activité ou ça n'avait rien à voir?
Oui, d'accord. C'était lié à ça et en fait, je ne m'en souviens pas très très bien, mais c'était beaucoup moins convivial qu'ici.
Ah ben voilà, c'est normal. Et puis bon, c'était il y a un moment aussi.
Oui.
Mais oui, bah nous, de toute façon, il ne peut pas y avoir plus convivial que notre émission. C'est, puis c'est sympa de t'accueillir, t'es sympa, donc...
Ouais, c'est cool alors.
Bon, on a jeté des fleurs. Donc, tu nous disais, est-ce qu'il y a, dans toutes les biographies, donc tu disais combien t'en as écrit aujourd'hui? T'es à combien?
J'ai commencé la 95e.
Ah oui, effectivement, ouais. C'est un beau... Tu gardes un exemplaire à chaque fois? Comment ça se passe?
De quasiment tout, oui.
D'accord.
En fait, je garde ce qu'on appelle le bon à tirer, c'est-à-dire l'exemplaire que l'imprimeur délivre, finalement, avant impression définitive, pour vérifier que tout est OK. Donc, souvent, il y a des petits trucs à corriger dedans, mais ça me suffit, puisque ça me sert, pour les clients qui l'acceptent et qui me signent une autorisation, ça me sert d'exemple pour montrer au nouveau... ce qui peut être fait.
D'accord.
Par contre, je ne vais pas lire.
Ah oui. Les clients qui, donc, tu as fini ton travail, il y a le bon à tirer, ils le mettent en forme, ils l'auto-éditent, comment ça se passe en règle générale?
En règle générale, c'est de la diffusion familiale. Donc, je mets en relation avec un imprimeur. Je travaille avec l'imprimerie du Bocage à Esnay. C'est une scope. J'aime bien le principe. Je les trouve super réactifs. Le travail est d'excellente qualité. Donc, je bosse avec eux. Avant, je travaillais avec un imprimeur bordelais, qui un ancien Vendéen d'ailleurs. Mais j'ai arrêté parce qu'il y avait une perte de qualité. Et surtout... Bon, il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas, un déni de responsabilité sur des erreurs qui avaient été faites, et ça n'allait plus. Mais c'est le problème, quand on grandit trop, à un moment, ça finit par être compliqué. Mm-hmm. Donc j'ai rapatrié tout en Vendée, et là, l'avantage, c'est que mes clients, ils peuvent aller voir directement à l'imprimerie ce qui
D'accord.
se passe.
Okay.
Donc je fais de la mise en relation. Donc je m'occupe d'envoyer les fichiers, de vérifier les fichiers, je vérifie le bon à tirer, je lance l'impression, et le client paye l'imprimeur directement.
Alors, puisque tu parles de payer, tu veux bien nous donner quelques éléments? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est à portée de toutes les bourses pour une biographie?
Alors, ça dépend de ce qu'on veut mettre dedans. Grosso modo, comment vous dire? Faut compter... c'est très compliqué en TTC. Faut compter 4 500 € pour avoir un livre intégral hors impression. Rédigé, donc une année, 10 séances. C'est payable à la séance.
D'accord, ok.
Il n'y a pas d'engagement sur le nombre de séances qui. Sauf les trois premières qui sont impondérables pour pouvoir me permettre d'affiner le style pour correspondre à la personne, parce qu'en une fois, je n'ai pas forcément le temps de bien comprendre les attentes de la personne, etc. Donc, il y a les trois premières qui sont impondérables, et puis après, les autres. On arrête quand on arrête. C'est-à-dire que si la personne a signé un devis pour 10 séances, puis qu'au bout de 8, c'est fini, ben on arrête à 8. Et puis on en paye 8. Si elle veut en rajouter parce qu'elle n'a pas fini, ben on en rajoute.
C'est pas gênant. Il y a quelque chose qui m'intrigue. les gens que tu as en face de toi sont des gens, enfin, ce sont des témoignages de vie, ils parlent de leur vie. Est-ce qu'il y a, parfois, dans des, parce que c'est une histoire que tu racontes, c'est leur histoire que tu racontes dans le livre. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a des trous, des choses comme ça, où tu es obligé de faire travailler ton imagination? Est-ce que tu y mets un peu de fiction? Comment ça se passe s'il manque quelque chose? Parce qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait du lien tout au long du livre. Il faut que ce soit, que ça coule, que ce soit fluide.
Ah, ça, c'est mon boulot de biographe.
Des fois, il n'y a pas un manque d'infos. Non, donc tu, d'une façon ou d'une autre, tu y arrives.
Ben, j'y arrive parce que c'est mon métier, parce que je vais les guider dans les questions. Alors, il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui existent. Papa, raconte-moi ton histoire. Maman, raconte-moi ton histoire,
oui,
etc.
C'est très tendance, hein, oui.
Et c'est super. Mais là, ça veut dire que les personnes doivent faire le boulot toutes seules. Et puis, ben, si on n'est pas à l'aise à l'écrit, si on a trop de choses à dire, on n'a pas la place. Enfin, c'est compliqué. Et là, c'est décousu. Moi, mon travail, c'est de romancer une histoire vraie. Mais si je la romance, c'est uniquement de la partie rédactionnelle. D'accord. C'est-à-dire que je vais utiliser des connecteurs. Je vais faire des liens avec des choses qui ont été dites ou qui vont être dites plus tard. Parce que je sais, en fait. Et comme je n'empêche absolument pas le cerveau de dérouler ses idées, peu importe si on n'est pas dans le sujet qu'on est censé aborder, vu que j'enregistre, moi, c'est pas gênant, je fais ce que je veux après, derrière. Ben, je replace les choses, mais je sais qu'on va en parler, donc je peux à un moment revenir dessus en disant, mais là, c'est quelque chose qui a été abordé à tel chapitre ou qui sera abordé dans le prochain.
Et en termes de... Alors, tu disais, ton temps de travail, tu le gères comme tu veux.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'être débordé? Tu dis, toi-même, tu n'es pas capable de ne pas travailler, tu as besoin d'être tout le temps active. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça explose là-dedans?
Alors, non, la tête, ça va. Les moments où c'est le plus tendu, c'est vrai que ça m'est arrivé des fois d'être un petit peu en retard dans l'envoi, mais j'ai systématiquement prévenu les personnes en disant, là, j'ai un peu de... C'est un peu compliqué parce que je vais prendre un dossier urgent sur le volet écrivain public, et voilà, mais c'est très rare.
Alors, si tu tombes malade, qu'est-ce qui se passe?
Alors, j'ai la chance d'avoir une super santé. Eh bien, si je tombe malade, je tombe malade. J'ai été hospitalisée il y a 2024. J'ai eu 10 jours d'arrêt pour les sinus, rien de grave. Je me suis arrangée pour être opérée à une période où j'avais peu d'activité.
D'accord.
Mais les vacances, je prends 3 semaines dans
l'année. Oui, c'est
ce
que j'allais te demander, les vacances. 3 semaines.
J'ai 3 semaines l'été.
D'accord. Et pendant ces 3 semaines, tu décroches vraiment?
Ah oui, oui.
D'accord.
Mais parce que c'est 3 semaines non-stop. J'ai besoin de ça parce que sinon, je pète un plomb.
Ben oui.
Mais c'est normal, on est tous...
Est-ce que tu écris pour toi?
Alors,
si tu veux bien nous répondre, tu n'es pas obligée, hein, mais rien que ta réaction, ça veut dire que ce n'est pas un non déjà.
Alors non, ce n'est pas un non, mais alors, il y a ce livre plus technique sur le métier que je suis en train de rédiger, qui sera autopublié, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais qui sera autopublié. Ensuite, j'ai des projets de romans. En 2010, j'allais pas bien. En plus de la thérapie, j'ai écrit plein de nouvelles. Je faisais des concours de nouvelles parce qu'en fait, j'ai du mal avec le côté fictionnel pur. J'ai besoin qu'on me guide un petit peu. Et à partir du moment où j'ai une petite trame, donc un début de phrase ou un thème ou autre, je vais pouvoir trouver une histoire. Et il y en a une particulièrement que j'aimerais développer en roman.
D'accord.
Et il y a du potentiel.
D'accord. Et c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou c'est un peu plus concret, c'est un peu plus, tu te dis aller dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ou c'est pour l'instant encore...
C'est encore à maturer.
En gestation, quoi.
Oui.
D'accord.
Mais ça va se faire.
Ça va se faire. Je... Encore une fois, vous ne la voyez pas, mais je vous assure qu'à la regarder, on sait que ça va se faire. C'est un fait. Il y a vraiment pas de doute. Je vais reprendre un petit point d'actualité, parce qu'on refait une pause musicale avant.
Une petite pause musicale.
Vas-y, qu'est-ce que tu vas nous faire écouter?
Un morceau qui parle aussi d'un des plus vieux métiers du monde.
C'est quoi?
Donc l'interprète s'appelle Clove et son titre c'est Déclamatoire pour les putes.
C'est parti.
« C'est pour les putes qui débutent que je veux protéger, c'est pour le fric, les risques, des rendez-vous donnés. Pourquoi c'est pas un vrai métier, il leur faut une sécurité. C'est lorsque vous les ignorez qu'apparaît le danger. C'est pour les putes, la lutte que je veux éclairer. C'est pour que leur voix soit entendue, pas réduite ni effacée. Donner des droits aux putes, arrêter de criminaliser, stigmatiser, mais en danger, et elles sont exploitées. Obligé de censurer le titre de mon morceau, parce que ce mot pourtant très beau comme insultait considéré. Car les hommes ont décidé que ce serait mal connoté. Car les hommes ont affirmé qu'elles avaient pas de fierté. Fils de pute, soyez-en fiers, elle a du courage votre mère. Elle affronte stigmatisation, son corps, sa décision. Monsieur, dame, dois-je vous rappeler que les corps sont utilisés dans de nombreux autres métiers? Alors pourquoi vous les faites chier? Elle kiffe même pas ses mécaniques, ça me fait tant rire que c'est comique. Elle le ferait pas sans le fric, elle me fait marrer cette rhétorique. Comme si tu bosses c'est pour le plaisir, comme si tu le faisais pas pour te nourrir. Comme si t'irais quand même taffer si t'étais pas payé. Tu crois que le notaire friqué signe des papiers pour se faire kiffer? Tu crois que la caissière sous-payée travaille pour l'amour du métier? Tu crois que les Uber Eats pédalent sans espérer toucher de salaire? Tu crois que les milliardaires s'arrêtent quand y'a assez dans le compte bancaire? C'est pour les putes qui débutent que je veux protéger. C'est pour le fric, les risques, des rendez-vous donnés. Pourquoi c'est pas un vrai métier, il leur faut une sécurité. C'est lorsque vous les ignorez qu'apparaît le danger. C'est pour les putes, la lutte que je veux éclairer. C'est pour que leur voix soit entendue, pas réduite ni effacée. Donner des droits aux putes, arrêter de criminaliser, stigmatiser, mais en danger, et elles sont exploitées. Les discours paternalistes de tous les abolitionnistes qui parlent au nom de toutes les putes sans les écouter une minute. Ils disent que le travail du sexe renforce les inégalités. Ils disent c'est mal que ça s'achète, que les plus pauvres sont exploités. Mais laisse-moi te dire que ce qui crée la pauvreté, c'est pas vendre du plaisir, mais bel et bien la société. Si certaines y entrent par contrainte, c'est un blème de précarité générale, capitale, c'est la logique libérale. Si certaines sont forcées de le faire, le blème c'est pas le métier lui-même. La traite, un crime à part entière, différente du sexe volontaire. Mélanger les deux rend invisibles les travailleuses. Rassembler les deux, pour celles forcées c'est dangereux. Violence familiale, raciste, statut migratoire précaire, c'est ça les causes, les vices qui rendent vulnérables à la traite. Supprimer le travail du sexe ne supprimera pas ces causes. C'est sur les inégalités qu'il faut commencer à taffer. C'est pour les putes qui débutent que je veux protéger. C'est pour le fric, les risques, des rendez-vous donnés. Pourquoi c'est pas un vrai métier, il leur faut une sécurité. C'est lorsque vous les ignorez qu'apparaît le danger. C'est pour les putes, la lutte que je veux éclairer. C'est pour que leur voix soit entendue, pas réduite ni effacée. Donner des droits aux putes, arrêter de criminaliser, stigmatiser, mais en danger, et elles sont exploitées. Pourquoi vous les fustigez pour avoir survécu à des sociétés inégalitaires, et vous faites tout pour les faire taire? La traite, la violence et les risques sanitaires, c'est l'illégalité qui aggrave tous ces problèmes. Clients, proxénétisme, racolage et aide forcée poussent le travail du sexe dans la clandestinité.
Ils disent que ça banalise les rapports de domination. Dire ça, c'est comme mettre toutes les putes dans le même foutu panier.
Rend invisibles celles qui y trouvent leur liberté. Dans ce cas, faut abolir beaucoup d'autres métiers exercés par des femmes dans des conditions de coût critique, économique, hiérarchique et politique. Le silence nourrit la honte, sirène du plaisir, forte indépendante, ensorcelle les navires, sans oublier mes sœurs trans, l'accès aux soins et la violence. Il leur faut une reconnaissance comme sujet politique, une chance. C'est pour les putes qui débutent que je veux protéger. C'est pour le fric, les risques, des rendez-vous donnés. Pourquoi c'est pas un vrai métier, il leur faut une sécurité. C'est lorsque vous les ignorez qu'apparaît le danger. C'est pour les putes, la lutte que je veux éclairer. C'est pour que leur voix soit entendue, pas réduite ni effacée. Donner des droits aux putes, arrêter de criminaliser. Jolie sirène de l'intime, vaincront votre réprime.
Un super morceau, vraiment merci pour cette découverte Alexandra. C'est fort, hein?
Oui, très.
Alors, on se disait qu'au niveau du rythme, il y avait un côté Diams quand même, même si ça date, c'est pas du tout la même époque, mais on retrouve ce côté, ce rap
c'est,
engagé.
Oui. Très engagé.
Effectivement, c'est...
Et le morceau, il est sorti il y a 15 jours, hein, c'est vraiment tout nouveau.
D'accord. Tu nous rappelles le nom de l'artiste?
Clove.
Clove.
Ok. Mais justement, c'est un sujet, donc c'est, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, cette chanson, elle parle de prostitution. Elle aborde beaucoup de sujets, hein, la pénalisation du client, la traite des femmes, enfin, il y a énormément de choses dedans qui mériteraient d'être débattues, mais qui mériteraient d'être débattues avec, des femmes dans ces activités, dans ces métiers, dans ces, voilà, les personnes concernées, parce que. Parce que moi, je ne me vois pas donner, décider, évidemment, pour qui que ce soit. Donc, j'en profite pour lancer un appel. S'il y a des personnes qui souhaitent témoigner sur le sujet de la prostitution, à quelque niveau que ce soit, hein, le témoignage, quelle que soit l'implication de là ou des personnes, avec, évidemment, une garantie de conserver l'anonymat, si la personne le souhaite, il y a absolument aucun souci. Donc, je le redis, contactez-moi. Sur Instagram, Histoire de Femmes 2, c'est le chiffre 2. Sur Facebook, Histoire de Femmes, ou via Graffiti, via la radio. Enfin, n'hésitez pas. Et si vous êtes du coin, de La Roche et tout, vous pouvez aussi me contacter directement. Si vous me connaissez ou vous avez entendu, j'ai un Facebook public. Voilà, donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous et si vous le souhaitez. Enfin bref, je serais extrêmement intéressée qu'on puisse en discuter à l'antenne. Revenons à notre invité. Revenons à Adèle.
Décidément. Hein.
Je ne mange pas de mouton.
C'est vrai, tu ne manges pas de mouton ou tu ne manges pas de viande?
Non, je ne mange pas de mouton. D'accord. Je mange de la viande, mais pas de mouton.
D'accord.
J'aime pas l'odeur, il n'y a rien à faire, ça ne passe pas.
Totalement hors sujet, on est complètement hors sujet. C'est, mais c'est ce qui fait le charme de cette émission absolument incroyable. Et d'ailleurs, pour que cette émission, comme les autres, puisse continuer d'exister, n'oubliez pas de faire un don. Oui. Et je le dis en plaisantant, ça fait un peu running gag, mais en fait, c'est très, très sérieux, on a vraiment besoin de vous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est important de soutenir votre radio associative. Donc, Delphine, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui serait attiré, qui aurait envie de se lancer dans une activité comme la tienne, dans ton métier, qui voudrait. Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose qui viendrait à l'esprit là ou pas du tout, mais. Est-ce que le fait de commencer en tant qu'auto-entrepreneuse, est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aujourd'hui a priori ou...
Oui, dans tous les cas, parce que ça permet de tester l'activité. Après, ceux qui sont un peu frileux à l'idée d'être indépendant peuvent utiliser la voie du portage salarial, ça c'est pas mal aussi, ouais. Parce qu'on reste indépendant, mais on a la couverture de l'entreprise de portage.
Oui, qui, donc c'est un entre-deux qui est quand même intéressant, ouais. Avec une certaine sécurité, une stabilité.
Oui, ça c'est plutôt intéressant. Le conseil, il n'est pas là, il est avant l'installation, il est de préparer son installation. Donc, outre les formations qui sont importantes, il faut aussi... surtout faire une étude de marché. Parce que ce qui fait la différence... Enfin, honnêtement, j'aurais du mal à dire aujourd'hui pourquoi moi je tiens, alors que tant d'autres...
Combien il y en a en Vendée? Tu es toute seule ou il y en a d'autres?
Non, alors quand je me suis installée, on était 5. Parmi... aucun de ceux qui étaient là quand je suis arrivée sont encore là. Et on doit être une quinzaine maintenant, peut-être.
D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce que ça peut être un métier... salariés dans des entreprises, je pense pas, mais alors, je sais pas, dans les maisons d'édition peut-être?
Non, pas dans du tout. Des mairies par contre.
D'accord.
Il y a aujourd'hui des centres, les CCAS, là, centres communaux d'action sociale, des centres communaux, ou alors des mairies qui recrutent des écrivains publics. Alors, pas trop en Vendée.
D'accord.
Un peu, mais pas trop, et beaucoup en région parisienne.
D'accord.
Effectivement, dans les grandes villes, il y a vraiment un intérêt. Je sais que lorsque je faisais partie du syndicat, c'était du groupement des écrivains conseils. C'est une association nationale qui permettait aussi de faire de l'échange de pratiques et puis de nous sortir de cet isolement. On avait travaillé à l'époque sur un projet de salariés des écrivains publics à la Bibliothèque pour tous à Paris. Elle est dans... Enfin bref, je ne sais plus où elle est, mais ce n'est pas grave. Ça a fonctionné et ça tourne toujours. mais le public n'est pas le même.
D'accord, oui, oui.
Donc il faut vraiment s'adapter à son marché, et c'est là où je dis l'étude de marché, elle est vraiment indispensable, parce qu'il faut savoir ce qu'on a envie de faire, comment on veut le faire et vers qui on se tourne. Et cette clientèle-là, est-ce qu'on va la trouver là où on veut s'installer? C'est toute la question. Donc l'étude de marché est importante.
Bien sûr. Comme pour toute structure, effectivement, voilà. Comme pour toute création d'entreprise, bien entendu. Oui.
C'est ça. Ne pas louper la communication, et puis surtout, toujours s'entourer des bonnes personnes, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et moi, je suis rentable depuis que j'ai un conseiller en pilotage d'entreprise.
D'accord, ok, voilà.
Donc, je paye quelqu'un pour m'aider à être rentable, et bien ça marche.
Tout à l'heure, tu as mentionné un apprenti que tu as eu pendant quelques temps.
Oui, j'ai eu une personne pendant un an. Il était en bachelor marketing vente. Il a été génial. Mais
À un moment, il est parti, c'est vers d'autres cieux.
Alors,
d'autres
il est parti.
Horizons,
oui, oui, il est parti pour poursuivre en master à La Rochelle. Et surtout, moi, je ne peux plus prendre qui que ce soit, parce qu'en fait, l'URSSAF, elle nous aligne.
D'accord, c'est ce que j'allais dire. Financièrement, ça se passe comment, en apprentissage pour toi?
Alors, c'est compliqué. En plus, il était plus âgé, il avait 26 ans, donc il était au max du SMIC.
Oui.
Mais il y a des aides quand même que l'État fournissait à l'époque, qui sont moindres aujourd'hui, donc ça limiterait. Mais en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça implique. Un apprenti démarre en septembre, il reprend en septembre, une année, deux fois on paye la médecine du travail, parce que la médecine du travail c'est par année civile.
D'accord.
Pour que dalle, hein, parce qu'en réalité je suis désolée, une visite de routine, surtout dans une structure comme la mienne, ça sert à rien. C'est... Bref, pardon pour ce que je pourrais choquer. L'URSSAF. Donc l'URSSAF, il y a des consignes. Alors bien sûr, il faut payer aussi un comptable service social pour faire les salaires, parce que ça c'est important.
Et oui.
On est censé payer quelqu'un qui nous apporte un conseil. Mais en fait, on a fait une rupture anticipée de son contrat parce que je lui ai payé ses congés payés. À aucun moment, le comptable m'a dit « Attention, si vous payez les congés payés, vous allez dépasser le plafond et donc vous allez payer l'URSSAF au max. » Résultat, j'ai payé plus de 700 balles d'URSSAF, de trop.
Ouais.
Par rapport à ce que j'aurais payé s'il avait pris ses congés payés et que je l'avais payé. Donc, grosso modo, c'est juste impossible.
Oui, donc ça, c'est pas...
Donc, ça, c'est fait. Je vais continuer à travailler toute seule. Je ne prends plus de stagiaires non plus. Je suis désolée parce que, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un chez moi tout le temps.
Ah oui, c'est bien, d'accord.
Et puis, je n'ai pas de temps à accorder. Je suis quasiment tout le temps à l'extérieur. Donc, après,
ça se comprend, t'excuses pas. Hein,
c'est ça, je vais pas prendre quelqu'un pour s'occuper de ton chat.
Donc, non, il n'y a pas de. T'excuses pas. Eh bien, je ne peux pas laisser. Alors, l'émission n'est pas encore terminée, mais il n'est pas possible de clore cette émission sans parler du rapport qui vient de sortir. Le rapport publié donc le 21 janvier, il y a un peu plus de 10 jours, le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Ça, c'était pas possible. C'est, pour rappel, c'est une instance indépendante qui est chargée de faire le point sur le sexisme et l'égalité hommes-femmes en France et qui publie un rapport annuel. Ce rapport, le rapport 2026, a un titre. Il s'appelle « La menace masculiniste ». Il attire l'attention donc sur une évolution préoccupante. Certaines formes de sexisme qui ne sont plus seulement des attitudes isolées, mais qui s'inscrivent dans des logiques collectives et idéologiques qu'on appelle donc le masculinisme. Le Haut Conseil à l'égalité identifie deux grandes formes de sexisme. Le sexisme paternaliste, perçu comme des attitudes bienveillantes, entre guillemets, vous voyez ce qu'on veut dire, mais hiérarchiques, et le sexisme hostile. Bon, le sexisme, par définition, c'est hostile, hein, mais bon, c'est une définition qui permet de catégoriser les différentes formes de sexisme. Donc, le sexisme hostile, plus agressif et ouvertement dirigé contre les femmes. Il y a une enquête en ligne sur laquelle s'appuie le rapport auprès de la population, enfin auprès d'une fraction d'un échantillon représentatif de la population française de 15 ans et plus. 17% des personnes, ce qui représente tout de même près de 10 millions, adhèrent à des attitudes relevant du sexisme hostile, c'est-à-dire portées par des discours idéologiques, et notamment sur Internet. Les réseaux sociaux, c'est une plaie à cet égard. Enfin, je veux dire, c'est ce qui permet de véhiculer cette idéologie nauséabonde. Les réseaux sociaux sont des vecteurs, en fait, pour ces discours qui favorisent l'amplification des stéréotypes et des violences en ligne, évidemment, essentiellement, particulièrement plutôt, envers les femmes. Le Haut Conseil à l'égalité formule 25 recommandations, je crois, parmi lesquelles il y a renforcer l'éducation affective et sexuelle dans les écoles. Hein, on connaît tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Intégrer les discours de haine dans les réponses de la sécurité publique et créer un observatoire national du masculinisme. C'est une recommandation du Haut Conseil à l'égalité. Le masculinisme, c'est... Je ne sais pas depuis quand on en parle, c'est pas si vieux que ça. Qu'on en parle vraiment entre le moment où le nom a pu être prononcé pour la première fois et le moment où on s'est dit c'est un phénomène de société, il s'est passé un petit peu de temps, c'est très récent en fait. Et il y en a partout, on les voit partout en ligne, ces hommes-là qui viennent donner leurs conseils sur comment faire pour dresser sa femme, en gros c'est à peu près ça, pour séduire une femme, qu'il faut pas l'écouter, on peut la frapper, enfin, il y a toutes sortes de masculinistes. Et ça va jusqu'à des violences extrêmement... Enfin, des violences, quoi, il n'y a pas d'autre terme. Des violences psychologiques, des violences physiques qui sont encouragées par ces gens qui sont des influenceurs et qui s'adressent à un public qui se laisse embarquer.
Alors, il y a aussi une histoire d'algorithme, hein, apparemment.
Bien sûr.
Il suffit d'être 20-30 minutes sur TikTok pour avoir ce genre de contenu.
Oui.
Moi, je vous dis personnellement, mon algorithme, je l'ai déjà bien travaillé, donc je ne les vois pas passer, ces trucs.
C'est effrayant, hein. C'est effrayant. On a eu d'ailleurs un invité ici en 2025, on a eu Sony, hein, ce jeune homme qui a découvert le masculinisme à travers
un documentaire
ouais. Et qui a souhaité venir être l'invité de notre émission pour venir expliquer lui en tant qu'homme.
Il était choqué. Hein.
Il était extrêmement choqué. C'était une émission très intéressante que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Graffiti. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast dès le lendemain sur Spotify, sur Apple Podcast et bien sûr sur le site de Graffiti. Une bonne nouvelle malgré tout au milieu de tout ça. Vous avez tous entendu qu'en 2027, si tout va bien, il y aura 72 noms de femmes gravés sur la Tour Eiffel. Quand elle a été construite pour l'exposition universelle en 1889, Gustave Eiffel a voulu mettre en avant la science et l'ingénierie française. Donc il a gravé le nom de 72 savants, ingénieurs et scientifiques français sur les frises métalliques du premier étage. Pour leur rendre hommage, tous ceux qui ont contribué au progrès scientifique du 19e siècle. Il y avait Lavoisier, par exemple, et pas de femmes. Eh bien voilà, ça y est, la ville de Paris l'a dévoilé. Il y a 72 femmes scientifiques qui vont être inscrites, dont le nom vont être inscrits aux côtés des 72 savants masculins. Ça devrait se faire, si c'est définitivement adopté, en 2025. Dans cette liste, par exemple, il y a Marie Curie. Voilà. Mais aussi des personnes moins connues, comme, je vous en cite une, hein, Yvonne Bruat, pardon. Qui a été la première femme magistrate à la Cour de cassation en 1946. Il y a aussi peut-être Anita Conti, dont je peux vous parler, qui est la première femme océanographe française. Dans les années, je crois, 1940 à peu près, 1930, elle a embarqué sur des navires, au long cours, des navires de pêche, avec des équipages 100% masculins. C'était pour ne donner que quelques exemples. Donc, ce projet, il a pour but de corriger une absence historique, évidemment. Et alors, oui, la décision finale doit être prise, validée par des... Il y a un certain nombre d'institutions scientifiques qui doivent se prononcer avant que les gravures ne soient effectivement mises en place. Un dernier mot, peut-être encore un petit morceau de musique ou pas.
On peut.
Alex, allez, on y va.
Hein. Alors là, c'est Blindage, Jour de colère. Donc, c'est du l'indie électro. Et donc là, vous pouvez monter le son.
Merci pour ce morceau qui donne la pêche, Alexandra.
Je t'en prie.
Tu nous trouves toujours des pépites, c'est super, hein, c'est super. Alors, je voudrais faire le lien avec ce que je viens de dire juste avant la pause musicale. Je vous ai parlé de d'Anita Conti et de d'Yvonne Brua. Donc des femmes, Marie Curie, des femmes dont on ne s'attendait pas à ce qu'elles arrivent à s'imposer dans un monde d'hommes. Hein, l'océanographe qui était toute seule sur des bateaux avec des hommes. Enfin voilà, c'était absolument incroyable. Eh bien, il y a une femme qui cette année-là, en 2026, vient d'avoir une nomination, je pense qu'on peut dire ça comme ça, historique. Cette femme, elle s'appelle, alors j'ai pas vérifié la prononciation de son nom de famille, pourtant je parle très bien anglais, mais les noms de famille, c'est pas toujours, ça ne se prononce pas toujours comme ça s'écrit. Elle s'appelle Sarah
Mullally,
c'est, en plus ça fait consonance un peu... Non, pas irlandaise, je ne sais pas. Sarah Mullally, qui est née en 1955, donc au Royaume-Uni. Elle a commencé sa carrière comme infirmière, puis elle est devenue évêque. Et elle vient d'être nommée archevêque de Canterbury. Là, cette année, là, il y a quelques jours, c'est le plus haut poste de l'Église d'Angleterre, de l'Église anglicane. Et ça, c'est incroyable, parce que des femmes dans le monde religieux, quelle que soit la religion qui atteigne les sommets, soit il n'y en a pas du tout, soit il y en a très peu selon les religions et les pays. Donc c'est la première. L'Église d'Angleterre a été fondée au XVIe et donc il n'y a jamais eu de femme à ce poste. C'est un symbole très important. C'est vrai que le fait qu'elle a été infirmière aussi, elle a un parcours, disons, atypique. Et... elle a été élue, voilà, c'était pas une nomination, elle a été élue à ce poste, je vérifie mes notes, et en fait, c'est une élection qui marque la fin du plafond de verre religieux. Avant de terminer l'émission, je crois que ça fait deux fois que je le dis, le mois prochain, l'émission aura lieu, c'est le premier mercredi de chaque mois, donc le premier mercredi du mois de mars,
le
4 mars, donc, à l'international, enfin l'ONU a lancé là sa campagne pour la Journée internationale des femmes, qui est donc chaque année le 8 mars, avec pour mot d'ordre, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. L'organisation rappelle que dans de nombreux pays, les femmes font toujours face à des barrières légales, sociales et économiques. J'aimerais vous dire aussi, mais on y reviendra une prochaine fois, que cette année était proclamée au niveau international, donc l'année, celle qui vient de commencer, l'année internationale de la femme agricultrice. C'est une initiative pour mettre en lumière le rôle crucial des femmes dans l'agriculture, dans la sécurité alimentaire. Et c'est le moyen, évidemment, d'appeler à lever les obstacles structurels qui limitent leur autonomie. Et je pense que ce serait bien qu'on en reparle aussi. Et je lance aussi un appel à témoignage. Une femme, ou un homme qui vient parler des femmes, évidemment, agricultrice, souhaite témoigner, partager des choses avec nous, eh bien, ce sera avec plaisir aussi qu'on l'accueillera dans l'émission. Donc, ne pas hésiter, là encore une fois, à prendre contact avec nous sur les réseaux sociaux ou via la radio. Delphine, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a un mot pour la fin? Et puis ensuite, dis-nous, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire juste pour conclure cet échange avec toi? Tu n'es pas obligée, hein, tu peux juste dire qu'on est génial, tu l'as déjà dit en même temps.
Oui, bah, ça c'est sûr, vous êtes génial. Non, c'est rigolo parce qu'avant de venir, je suis allée rendre visite à un client qui serait très content de cette nomination de cette femme au poste de archevêque.
Oui, c'est ça.
Ouais. Il serait ravi.
Donc tu lui envoies un clin d'œil, là, c'est ça, ouais, si jamais il écoute l'émission. Donc il peut la réécouter dès demain en podcast.
Oui.
Tu pourras l'écouter avec lui.
Normalement, il est censé l'écouter puisque je l'ai prévenu.
Ah, d'accord, ok. Bon, bah, un grand coucou à ce monsieur, alors.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci.
C'était
beaucoup
très agréable d'échanger avec toi. On a appris beaucoup de choses. Entre-temps, dans le studio, nous avons accueilli Océane, militante Nous Toutes 85. Bonsoir, Océane.
Bonsoir.
Océane va nous faire une lecture féministe comme chaque mois, mais juste avant, un dernier morceau de musique, on va écouter Morgane.
Oui, Diabolique.
J'adore ce morceau.
ma belle.
J'écrase mon mégot sur le siège passager. La Rose monte le son des enceintes de mauvaise qualité. Les basses crachent comme un gamin qu'on a mal éduqué. Je te mate dans le rétro, je vois la panique te gagner.
T'as voulu monter à bord, t'avais tellement tort.
T'as fait le bandit, t'as forcé, mais moi j'aime pas les portes.
Tu pensais me tendre un piège, toi et tes potes.
Mais t'es seul sur la banquette et j'ai verrouillé les portes.
Ouh, là tu paniques. On n'est pas des meufs bien pas sympathiques. Et je roule jusqu'à ce que t'abdiques. Pas joli, pas poli, juste diabolique.
Hey boy, tu veux ma ventoline? Reprends ton souffle, j'ai fait le plein de gasoline.
Tu vas pas nous faire un malaise, toi qui prétendais être balèze. Maintenant c'est qui balise, le moteur fait des vocalises.
Tu regardes comme si je te devais des dettes. Visiblement t'as pas l'habitude qu'on te tienne tête. Tu veux jouer les gros durs, qu'on te respecte. Mais le seul truc que tu touches bien c'est ta manette.
Ouh, là tu paniques. On n'est pas des meufs bien pas sympathiques. Et je roule jusqu'à ce que t'abdiques. Pas joli, pas poli, juste diabolique. Ouh, là tu paniques. On n'est pas des meufs bien pas sympathiques. Et je roule jusqu'à ce que t'abdiques. Pas joli, pas poli, juste diabolique.
Quand je veux, c'est moi qui décide. Ça fait quoi d'avoir les dents qui claquent de devenir la cible?
Où je veux, quand je veux, c'est moi qui préside. Je crois que le boug est devenu cardiaque à trop faire le caïd.
Où je veux, quand je veux, c'est moi qui décide. Ça fait quoi d'avoir les dents qui claquent de devenir la cible?
Où je veux, quand je veux, c'est moi qui préside. Je crois que le boug est devenu cardiaque à trop faire le caïd.
Ouh, là tu paniques. Ouh, là tu paniques. Tu paniques, on n'est pas des meufs bien pas sympathiques. Et je roule jusqu'à ce que t'abdiques. Pas joli, pas poli, juste diabolique.
Ouh, là tu paniques. On n'est pas des meufs bien pas sympathiques. Et je roule jusqu'à ce que t'abdiques. Pas joli, pas poli, juste diabolique.
Merci Alex, je me suis fait gronder quand même, je vous le dis à tous, parce que j'ai cette fâcheuse tendance à souvent à chanter ou à parler d'ailleurs dans le micro et à la fin, et comme je chantais au moment où elle a remis le son, elle m'a fait signe de me taire, je crois que c'est parce que je chante
faux. Mais si tu veux la prochaine fois, j'ouvrirai les micros pendant que tu es en train de chanter. Hein.
J'adore ce morceau, qu'est-ce que tu veux, j'écoute ça dans la voiture, d'accord. Ça me donne la pêche. C'est
vrai que c'est rien.
Donc Océane est venue pour nous lire un extrait de... Tu vas nous présenter ta lecture, on t'écoute, voilà, c'est comme tu veux.
Eh bien c'est parti, avec plaisir, et c'est très motivant de lire après cet extrait de musique. Donc mon texte, c'est un extrait d'un écriture de Danick Davis, qui se nomme « Filles et garçons en EPS, différents et ensemble ». Et il vise à parler et à discuter sur le concept de mixité qui est un peu forcé aujourd'hui dans les cours d'EPS. Donc il pose un peu la question de tout ce concept. Donc je commence. L'éducation physique et sportive est donnée en exemple dans bien des propos sur la mixité scolaire. Mais un exemple de quoi ? Tantôt, en effet, l'évocation de cette discipline d'enseignement vise à montrer qu'en certaines circonstances, les élèves peuvent être séparés. Tantôt, au contraire, elle vise à illustrer comment les enseignants, confrontés à la différence la plus visible, celle des corps, sauraient trouver des solutions pour permettre aux élèves d'apprendre ensemble. La tension est réelle entre cet objectif éducatif de l'apprendre ensemble et la non moins éducative nécessité que les élèves qui en sont les moins familiers, ici les filles, acquièrent réellement une culture commune dans le champ des activités physiques, sportives et artistiques. Pour m'être acharnée depuis 40 ans à saisir ces deux exigences, je crois raisonnable de dire que la contradiction doit être considérée comme durable. Une culture commune, oui, mais laquelle ? Puisque les activités sportives s'inscrivent dans leur quasi-totalité dans une histoire d'hommes, faut-il s'obstiner à ce que les filles se les approprient ? Au fond, faut-il vraiment que les filles soient sportives ? Pour le temps personnel, comme pour les adultes, c'est évidemment affaire de choix. Mais précisément, il revient à l'école, et peut-être à elle seule, de créer les conditions de la liberté réelle des choix. Si l'on ne veut pas que la reproduction culturelle, sociale et familiale soit seule maîtrise du jeu, l'école doit en effet confronter les filles aux diverses facettes de ce patrimoine. Mais cette question croise une controverse durable dans le monde de l'EPS sur le fait que les sports constituent une référence culturelle pertinente pour l'école. Le caractère éphémère des prestations sportives, qui sont à l'inverse des œuvres littéraires et des connaissances scientifiques n'aident pas à prendre du recul sur les dérives médiatiques et financières qui entachent le sport de haut niveau. La pente du renoncement est souvent plus tentante. Ainsi, la difficulté à enseigner les sports collectifs ou les autres sports d'opposition, de combat ou de raquette aux filles, ainsi que la stigmatisation des notes toujours plus basses des filles au bac, notamment d'environ un point, peuvent conduire à une conception régressive. L'échec relatif des filles dans les activités sportives serait ainsi prétexte à accentuer la part d'activités liées à la santé, à l'entretien de soi, ou selon l'heure du temps, pour les activités comme le step. Cette féminisation, qui est non dite des programmes, permettrait la résurgence d'une vieille tendance hygiéniste de l'EPS. Une meilleure égalité des filles devrait donc se payer d'un bien triste retour à l'éternel féminin sous sa forme corps et santé, laissant ainsi passion et plaisir, risque et aventure au pôle masculin hors des initiations scolaires. Voilà l'extrait du texte.
Merci beaucoup. Je ne crois pas que c'était un sujet qui a déjà été abordé dans l'émission. Je n'ai pas souvenir de ça et ça
interpelle. Oui.
Ça interpelle et ça pose question et c'est. On aurait presque aimé. On aurait aimé en avoir plus. Bon, mais l'émission se termine. On n'a pas le temps. En tout cas, merci pour cette découverte, Océane. Merci d'avoir
avec
été parmi nous. Delphine, à nouveau, merci. C'était un vrai
merci
plaisir.
Merci à vous.
Et je me permets d'envoyer encore des bisous à Annie, qui est forcément en train de nous écouter, c'est obligé.
Oui.
Et c'est, voilà, donc qui est de tout cœur avec nous et avec les auditeurs et les auditrices. Donc rendez-vous au mois de mars, tu nous as dit le 4 mars. On vous parlera de ce qui se prépare à La Roche pour le 8 mars, mais qui aura lieu, il y aura un village sur la place le 7 mars. On vous en parlera lors de la prochaine émission.
Oui.
Hein, le village, ce ne sera pas le 8, mais le 7.
Le 7, samedi 7, oui.
Voilà. Merci beaucoup. Donc, à partir de demain, en podcast, sur les réseaux, d'ici la prochaine émission. Des bisous tout le monde.
Bisous, bonsoir à tout le monde.